Moi, j'étais un grand, grand délinquant. Et je me suis rattrapé avec 100 kilos de shit. Moi. Je gagnais très bien ma vie. Je gagnais 30 000 euros par mois. Je faisais mes vacances, j'allais à Marbella, là-bas, là-bas. Je faisais ma petite vie de jeune inconscient. Jusqu'à que la vie, elle te rattrape. J'étais en prison. J'ai pris une peine astronomique pour mon âge. J'ai plus envie de tout ça, surtout pour ma mère.
Yacine a écopé de 5 ans de prison. Dans les quartiers nord de Marseille, il était gérant d'un point de deal. C'est un rang élevé dans l'organisation très hiérarchisée du trafic de drogue. Aujourd'hui, tout est derrière lui, heureux de vivre comme Monsieur Tout-le-Monde, alors que sa ville s'enfonce dans les violences liées à ces trafics. Depuis le début de l'année, 29 personnes sont mortes dans des règlements de compte, avec parfois des périodes qui semblent incontrôlables, comme ces 4 morts en 4 jours en août dernier. L'économie de la drogue est solidement ancrée dans les quartiers les plus abandonnés de la deuxième ville de France. Dans ces arrondissements, le chômage touche un quart de la population, affirme l'INSEE. Pour les jeunes, c'est bien plus encore, selon les riverains.
J'ai gagné ma vie. Je ne vis pas comme un mouton, je vis comme un roi.
Selon le quotidien local La Provence, il y aurait dans la seule ville de Marseille 156 points de vente, 220 sur tout le département des Bouches-du-Rhône, c'est 2 fois plus que de bureaux de poste. C'est dire l'emprise des trafiquants de drogue, mais aussi le délabrement des infrastructures dans la cité phocéenne.
C'est pas que l'argent qu'ils recherchent, c'est aussi l'appartenance à un groupe, la réputation, la protection. Finalement, si ces gamins vont le chercher auprès du réseau, c'est que ça ne l'aurait pas apporté ailleurs.
En septembre, Emmanuel Macron est venu sur place présenter le plan Marseille en grand. L'État devrait y participer à hauteur d'1,5 milliard d'euros, hors rénovation des écoles, qui nécessitent autant. Pour comprendre la vie des habitants dans ces quartiers sous la coupe des dealers, Géraldine Allot et Laurent Macchietti sont allés dans 2 quartiers des 14e et 15e arrondissements, la Busserine et le Castellas, où la vie normale côtoie l'invraisemblable. Quartier nord de Marseille, le deal et l'ordinaire, voici leur reportage.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
On commence à voir les tours des quartiers nord, les grands ensembles, avec cette lumière marseillaise si particulière qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Grand soleil, beau ciel bleu, on arrive à la Busserine. Il y a une voiture brûlée, complètement calcinée. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Yamina ?
Oui.
Merci de nous accueillir.
Je vous en prie.
Yamina Mayoub, vous habitez ici dans le quartier de la Busserine et vous appartenez à l'association des locataires.
Exactement.
Du quartier. On vient d'arriver à la Busserine très rapidement, hein, c'est à 10 minutes seulement de la gare Saint-Charles. On a l'impression, peut-être que vous nous direz le contraire, mais que le quartier est bien desservi. Il y a une gare TER juste à côté, il y a 2 lignes de bus. En revanche, ce qui nous a marqué, c'est vraiment à l'entrée du quartier, il y a un gros tas de détritus et une voiture calcinée qui a l'air d'être là depuis un bon moment.
Ben, des voitures calcinées, on en a pas mal dans le quartier. Si les bailleurs faisaient leur travail, de toute façon, on aurait moins de détritus, moins de voitures. Les poubelles qui s'accumulent et qui restent pendant un moment. Nous, en tant que locataires, on n'a rien dans nos mains. On ne peut pas forcer nos bailleurs à faire ce qu'il faut pour leurs locataires et leur sécurité. Pour les poubelles, on a fait un nettoyage et il y a guère de temps, on a ramassé. Vous trouvez que c'est normal que tous les locataires, tout quoi, entre guillemets, les locataires descendent dans le quartier, ramassent les poubelles. Moi, je ne trouve pas ça normal, je l'ai fait.
Il y a une collecte quand même qui est organisée par la mairie. Ils viennent, les éboueurs,
oui,
dans le quartier.
Ils viennent, mais généralement, ils oublient la moitié. Entre ça et entre jeter, il y a beaucoup de personnes qui jettent par les balcons. Vous savez, maintenant, on a les gens qui jettent, ils nous balancent par les balcons, les poubelles et tout. Après, vous ne pouvez pas éduquer les gens. Vous ne savez pas qui c'est. Vous ne voyez pas qui c'est. Entre ça et le tout, on jette tout de partout. On n'appelle pas à la mairie avant de jeter des meubles ou des frigos, des ci ou des là. Et tout, il s'accumule ici. Il y a même des entreprises qui viennent et qui déchargent chez nous.
Vous faites partie d'un groupe de veille aussi, des habitants, oui, qui s'est créé en 2016. à la suite de l'intrusion d'une consommatrice de drogue dans la cour de l'école et qui s'est piquée devant les élèves. Oui, et donc exactement. Forcément, ça a beaucoup choqué les habitants.
Ah non, pas les habitants, les enfants et les habitants, parce qu'il y avait les petites maternelles qui regardaient faire. C'est à ce moment-là qu'on s'est regroupés et qu'on a décidé d'ouvrir ce groupe de veille.
Est-ce que le trafic de drogue est toujours aussi présent à la Busserine ?
Je ne peux pas vous dire.
Vous ne souhaitez pas nous en parler ou non, vous avez peur de nous en parler ?
C'est pas que j'ai peur, je ne souhaite pas vous en parler.
Pourquoi ?
Parce que j'ai... Il en est hors de question. J'ai pas besoin d'avoir de soucis supplémentaires.
Donc là, nous avons un micro plus discret et nous allons au cœur du quartier de la Busserine, au bâtiment B7. C'est là qu'est le point d'accueil des jeunes du quartier, point d'accueil qui appartient au centre social de l'Agora. Karim nous y attend, c'est comme cela qu'il souhaite qu'on l'appelle. Il est animateur social et donc devant nous, il y a deux jeunes hommes qui font le guet sur des chaises en plastique. Bonjour.
Non, mais je veux dire, l'inscription...
Ah oui, oui, je vais là, je suis en train de décompter les enfants.
Ça va, nickel. Allez, merci, au revoir.
Vous faites les inscriptions pour...
Le centre aéré.
Pour les vacances.
Ah, il ne faut pas laisser les chaises dehors, là.
Pourquoi ? Pour les guetteurs ?
Salut, salut.
Ça va, je vais... Mais faut pas laisser... On l'a dit, il ne faut pas laisser les chaises dehors, parce qu'ils vont les prendre.
Oh, salut.
Bonjour, ça va ?
Ouais, ça va, merci.
Qu'est-ce qu'on
fait ? Je fais un technicien, je suis pour la radio. Radio France.
Bonjour, voilà, je vais vous montrer les points de chouf. Il y en a plusieurs dans le quartier. Et ce qu'on voit depuis peu de temps, c'est qu'il y a des petits... très jeunes qui viennent travailler dans les réseaux et qui viennent pas du quartier de la Busserine.
Ils viennent d'où ?
Ils viennent d'ailleurs. Des fois, ils viennent d'Avignon, de Paris, de Nice. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme Salam. Là-bas. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Travaille avec moi. Il a eu peur que vous êtes de la police. Il m'a interpellé.
Donc un guetteur sur son fauteuil voilà. Au pied des tours.
C'est ça. Quand il ne connaît pas des personnes, il interpelle direct. Je travaille au centre social et je suis habitant d'ici. Mais c'est vrai que quand vous ne venez pas d'ici, quand ils ne vous connaissent pas, c'est dur à rentrer. Et c'est pour ça qu'ils vous interpellent ou qu'ils vous disent qu'est-ce que vous faites là. Presque si vous ne dites pas qui vous êtes, ils vous fouillent pour savoir si vous n'êtes pas de la police ou pas. Là, il y a une entrée, deux, trois, quatre, cinq. Il y a cinq points de chouf.
Donc chouf, c'est guetteur.
C'est les guetteurs, voilà.
C'est le début de l'échelle dans le trafic.
Le plus bas. C'est le plus bas. Les guetteurs abordent des petits collégiens pour qu'ils les remplacent 10 minutes, un quart d'heure, juste pour aller aux toilettes ou aller acheter une boisson ou un sandwich. Voilà. Et il y en a certains collégiens qui se font menacer parce qu'ils veulent pas. C'est là qu'après, doucement, ils rentrent dans ce vice-là. Certains petits qui veulent rendre service, c'est là que ça commence de là, en fait. Mais bon, c'est des proies faciles, les petits collégiens.
Et c'est pour ça qu'on voit des guetteurs qui ont l'air très jeunes. Tout à l'heure, il avait un gamin, il avait l'air d'avoir 12 ans, quoi.
12, 13 ans, il avait maximum. 12, 13 ans, il commence à fumer, il fume le shit, il vend... Il guette, il va pas à l'école. Les parents, ils sont où dans tout ça ? C'est ça le problème. C'est quand ton petit, il n'est pas à la maison ou il n'est pas à l'école à 12 ans, pose-toi des questions quand même. Surtout quand il vient avec de l'argent ou avec des nouvelles baskets ou un nouveau survêtement qui coûte très cher, c'est vraiment compliqué un peu.
Oui, il y a une voiture abandonnée là.
C'est pas une voiture abandonnée, mais c'est une voiture volée. En plein milieu de la route, une voiture volée.
Comment vous savez qu'elle est volée ?
Des jeunes me l'ont dit. Voilà, et on a vu un qui faisait le guettage faire n'importe quoi avec cette voiture. Voilà.
Donc là, juste devant l'école maternelle, il y a un autre point de guet
avec un jeune homme qui n'est pas français.
Vous parlez anglais? Je peux vous poser quelques questions? C'est pour un reportage. C'est juste pour savoir ce que vous faites ici.
Vous êtes de la police?
Moi non. Moi travaille avec l'association.
D'où venez-vous?
Du Ghana.
Quel âge avez-vous?
25 ans.
Et combien vous gagnez en une journée?
Entre 40 et 50 euros. C'est de 10 à 18 heures.
Et comment ils sont venus à vous, les dealers?
Cette question va un peu trop loin. Je ne connais pas les dealers. Juste quelqu'un qui m'a dit, toi tu restes là et on payera pour ça. Toute ma vie, je me suis dit, si un jour j'arrive en Europe, je ferai des études et j'accomplirai mon rêve d'être un grand footballeur, comme Ronaldo, Messi et les autres. Mais pour l'instant, ma vie, c'est ça. J'ai pas eu le choix, il faut bien que je mange. Si le gouvernement m'aide à me loger, je ne reviendrai pas ici. J'aime pas ça.
Nous retrouvons Karim, l'animateur social, à son bureau du point d'accueil jeunesse. Il nous confirme que le réseau recrute à tour de bras des jeunes du quartier et d'ailleurs, mais aussi des migrants.
Pour moi, ils recrutent n'importe qui en fait. Ils recrutent ceux qui ont besoin d'argent. Avant, dans ce quartier, il y avait des gens, des jeunes de ce quartier qui étaient dans le réseau, qu'ils ont arrêté. Voilà. Et depuis qu'ils ont arrêté, ils recrutent un peu n'importe qui, n'importe où.
Qu'est-ce que vous faites, vous, travailleur social, vis-à-vis de ces jeunes guetteurs? Est-ce que vous essayez de les sortir de là? Ou, j'ai envie de dire, c'est pas tellement votre rôle?
C'est, bien sûr, c'est mon rôle. C'est difficile à leur donner des arguments parce qu'eux, ils voient que l'argent. Nous, on essaie à leur trouver des formations ou de les orienter ou même presque de leur dire de rester à l'école. Voilà, parce qu'il y a des plus jeunes qui sortent de l'école pour être guetteurs, pour gagner 50 euros la journée ou 100 euros, voire 100 euros la journée. Voilà, et nous, on essaye à faire un travail avec ces jeunes-là de notre secteur pour pas qu'ils tombent dedans. En les amenant en sortie, en leur faisant des chantiers jeunes, des chantiers d'insertion rémunérés, voilà, même des chantiers même à capital vacances ou voilà de formation, capital formation. C'est-à-dire qu'ils travaillent pendant une semaine avec nous et nous, on essaie à leur payer une partie de leur permis ou leur assurance ou voilà.
Vous faites le poids face au réseau?
C'est très dur. Le poids, c'est l'argent. L'argent facile, voilà. Et moi, j'ai pas d'argent pour leur donner à ces petits.
C'est chelou, monsieur.
C'est vrai, je fais chelou.
De base, on laisse pas les gens comme ça. Non.
Ouais, là, ça va. Tout le monde me prend pour un flic.
C'est pareil.
Frère, tu m'écoutes? Frère, tu m'écoutes ou pas? Frère, c'est un
problème. Celui qui parle le plus, c'est pas lui.
Anne-Marie Tagawa, vous êtes une figure du quartier. Vous avez été éducatrice spécialisée pendant 45 ans. Et aujourd'hui, vous êtes toujours bénévole au centre social Agora. Ces jeunes-là qu'on a vus toute la journée faire le guetteur, voire plus, vous pensez qu'on peut encore passer un certain nombre d'années dans le réseau, les sortir ou ça devient de plus en plus difficile?
Ce qu'on dit de plus en plus, c'est que notre objectif à nous, il n'est pas d'éradiquer le réseau. Hein. Ce n'est pas notre job, d'une part. Et puis, ça fait aussi partie dans ces quartiers d'une forme d'économie. Donc cette économie, elle existe, qui est très difficile, c'est le rapport de violence que ça a engendré, qui n'ont pas toujours été la même chose. Et du coup, on se dit aussi que on confirme de plus en plus que des gamins jeunes, quand ils vont, ils se trouvent attirés par les réseaux. C'est pas que l'argent qu'ils recherchent, c'est aussi l'appartenance à un groupe, la réputation, la protection, la représentation sociale de la réussite, d'une certaine façon. Et du coup, on se dit, mais finalement, si ces gamins vont le chercher auprès du réseau, c'est que ça leur est pas apporté ailleurs. Il faut qu'aujourd'hui, on se penche sur ces gamins le plus tôt possible. Et on repérait que le passage en sixième était souvent un moment important. Le gamin rentre un peu dans la jungle, mais aussi, comme tous les enfants, hein, quel que soit leur milieu. Mais du coup, ici, les moments où ils cherchent à exister, à être confortés dans une position sociale et tout ça, si l'école les met en échec, ce qui arrive, on a des signaux qui arrivent très vite, l'absentéisme, les problèmes de comportement à l'école. Et du coup, on dit faut qu'on prenne ces signaux comme autant d'alertes sur lesquelles il faut qu'on se penche et qu'on mette en place autour de ces enfants une forme d'étayage, en fait, social, de solidarité, de lien, qui leur permette de ne pas avoir comme seule réponse la participation au réseau.
Parmi les jeunes de la Busrine qu'Anne-Marie Tagawa a aidé et accompagné pendant des années, il y a Farid, c'est comme cela qu'il souhaite qu'on l'appelle. Farid a été guetteur pendant quelques mois avant d'accepter une formation que le centre social Agora lui proposait. Combien vous gagnez à l'époque ?
Les horaires, c'était 11h, 18h, je crois. C'est la première mi-temps, il y a la mi-temps, l'autre. C'est 18h à minuit. Enfin, c'est 50€ par mi-temps.
Donc 100€ la journée.
C'est ça.
Vous parlez de mi-temps comme au football ?
Exactement. C'est ce qui se dit, de toute façon, d'aller sur le terrain. C'est un terrain, ça, donc c'est normal, je parle des mi-temps.
Et pourquoi vous avez arrêté ?
Parce que déjà je me suis fait attraper une fois.
Par la police ?
Par la police. Et en plus de ça, j'ai tellement vu la souffrance dans les yeux de mes parents, de ma famille, de mes proches, que j'avais plus la même considération des personnes à ce moment-là. Donc c'est ça qui a fait que je me suis dit non, c'est pas fait pour moi. Et que les personnes aiment même pour ce que je suis, pas pour ce que je fais ça. Et la preuve, au contraire, j'ai su réagir et je pense qu'aujourd'hui, je suis apprécié dans mon quartier parce que je fais des bonnes choses, pas parce que je fais des mauvaises choses.
C'est vos parents qui vous ont sorti de ça ?
Je pense que c'est une force seule. C'est un courage qu'il faut prendre seul. Les parents, c'est un appui, mais c'est un choix personnel.
Vous avez eu peur aussi, parce qu'on a vu beaucoup de règlements de compte, des jeunes qui étaient tués, des jeunes guetteurs ?
Peur, je sais pas, parce que je suis né ici. Donc, depuis que je suis né, il y a ça, donc... Peut-être pas peur, mais voilà, c'était plus un choix de vie pour la suite de ma vie, ma continuation, ce que je veux construire personnellement et professionnellement.
Et vous faites quoi aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je suis en école d'éducateur, en alternance, et en même temps, je fais médiateur social dans un lycée. Mais franchement, non, je ne regrette pas du tout mon choix, au contraire, je suis très très fier et... Et justement, je fais éducateur pour essayer d'influencer ces personnes-là à ne pas faire la même erreur que moi.
Donc, dealer, selon vous, dans le quartier, ce n'est pas une fatalité, on peut faire autre chose.
Bien sûr, en plus, je pense que c'est ouvert, surtout dans notre cité à nous, où c'est, franchement, il y a beaucoup de centres sociaux, beaucoup d'éducateurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'écoute, donc je ne pense pas que c'est le bon chemin pour eux, parce qu'on peut les aider, justement.
Cet argent, c'était de l'argent que vous définiriez comment ? De l'argent facile ? L'argent dont vous aviez besoin ?
Ouais, c'était facile. Et c'est ce que j'avais besoin. C'était facile et j'avais besoin. Donc, c'était le plus simple.
Besoin pour
c'est
quoi ?
C'est ce qu'il y a de plus simple. Pour vivre, pour sortir, pour aller à l'école, au lycée, manger à midi. On mangeait pas à la cantine parce que c'était trop cher. Donc, avoir un peu plus que j'avais chaque jour, c'était pour ça. C'était plus... un plaisir personnel qu'autre chose. Moi, je m'imagine ma vie avec des enfants, une femme, être bien, tranquille. Et je sais qu'être dans ça, c'est pas vivre tranquillement. Donc, c'est un choix personnel. C'est pour moi, ma propre vie, c'est tout.
Être dans le réseau, c'est à un moment donné craindre aussi pour sa sécurité. C'est ça. Avec tous les règlements de compte.
C'est ça. Plus tu restes longtemps, plus tu te mets en danger. Enfin, c'est un truc, tu peux sortir facilement et pas te mettre en danger, mais il suffit que tu es là 2, 3, 4 ans, 5 ans. Enfin, il y a beaucoup de guerres entre cités, il y a beaucoup de montants en grade aussi assez facilement. Il y a beaucoup de gens qui rentrent en prison, donc il en faut d'autres, après, ainsi de suite. Donc on est facilement dans plus de problèmes, je trouve. Donc c'est pour ça que, pour ma propre vie personnelle, c'est mieux que je sorte de ça et que je fasse de l'argent autrement.
En mai 2018, la France entière entend parler de la Busrine. En pleine journée, des jeunes cagoulés, armés de kalachnikov, tirent en l'air. Ils bloquent l'accès du quartier. Les riverains assistent impuissants à cette démonstration de force.
En exclusivité. Oui, c'est la guerre.
Jean-Michel Peyroutet habite dans une tour qui donne précisément sur la rue qu'ils ont occupée. Il est l'un de ces habitants investis dans la vie du quartier qu'il ne quitterait pour rien au monde. Géraldine Allot et Laurent Macchetti sont allés le rencontrer chez lui.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Je vous ouvre.
Merci. Alors on va au 11e étage et Jean-Michel nous a dit, heureusement vous avez de la chance, l'ascenseur marche.
Bonjour,
bienvenue.
Alors, je m'appelle Jean-Michel Peyroutet, j'ai 66 ans et je vis dans ce quartier depuis 40 ans. Alors, je suis engagé dans le quartier depuis que je suis à la retraite, donc depuis 5 ans. Avant cela, j'étais souvent absent du quartier parce que je travaillais dans le BTP. J'étais souvent amené à me déplacer. Quand j'ai fini mon travail, j'ai vécu beaucoup plus dans le quartier et c'est l'époque où le groupe de veille est né sur ce quartier. En 2016, voilà, je me suis engagé un peu au service des habitants à ce moment-là.
L'impact de ce trafic sur la vie des habitants, alors il y a effectivement les guetteurs que vous voyez à tous les coins de rue, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres nuisances que ça vous cause à vous directement ?
Alors je dirais que une des nuisances, c'est tous ces cris que les guetteurs envoient quand la police intervient, quand...
C'est quoi, ara ?
Voilà, le fameux ara. Alors ça peut être, c'est souvent le soir. En journée, ça va. On a chacun nos activités, on n'y pense pas. Mais quand c'est le soir jusqu'à 2h, voire 3h du matin... Et l'été, quand ils envoient leur fameux mortier d'artifice pour fêter leur cagnotte de la journée, pour les habitants, c'est extrêmement difficile à vivre. Sans compter les coups de feu qui... Parce qu'il y a beaucoup d'armes dans ces quartiers, les coups de feu intempestifs, pratiquement tous les soirs, surtout l'été, pour faire peur, parfois pour tuer.
Jamais voulu quitter le quartier.
Ah, j'aime trop ce quartier. C'est un peu ma chair, quoi. Hein. C'est comme si on me demandait pourquoi tu aimes ta maman. Mais parce que c'est ma maman. Hein. Et là, c'est pareil. C'est sûr, il y a plein de choses qui peuvent nous exaspérer. Mais il y a tellement de résilience chez les gens, une force de vie qui est admirable. J'ai plus... un regard d'admiration, même si les gens vivent des choses extrêmement difficiles, même s'il y a beaucoup d'incivilité. Et on ne peut pas quitter un quartier qui croule devant tant de difficultés. C'est une communauté de destin. On vit avec jusqu'au bout.
C'est un quartier aussi où on sent le vivre ensemble. Et d'ailleurs, vous êtes catholique, vous êtes frère. Et vous nous racontiez, quand on a préparé cet entretien, que la chapelle du quartier, vous l'avez prêtée aux musulmans.
C'est la communauté comorienne musulmane qui cherchait des locaux pour prier et pour l'école coranique. Et la chapelle Sainte-Claire, les chrétiens ont prêté pendant 2 ans la moitié de leurs locaux pour que les Comoriens puissent prier et que les enfants puissent suivre l'école coranique. Et ça a beaucoup marqué, je pense, la communauté musulmane.
On arrive à la boucherie du Maï, la boucherie de la Busrine. Bonjour.
Bonjour.
On a rendez-vous avec Mohamed, on est journaliste.
Bonjour.
Vous êtes Mohamed ?
C'est ça, c'est moi.
C'est vous le gérant de la boucherie.
Bienvenue dans la boucherie alimentation du Maï. Bienvenue.
Donc ici, on trouve à la fois de la viande, mais aussi de l'épicerie.
De l'épicerie, de la boisson, du frais, du congelé. On essaie un peu de proposer tout dans cette boucherie pour répondre au maximum à la demande du client.
Mohamed, vous avez quel âge ?
J'ai 24 ans.
Depuis combien de temps vous êtes le gérant de la boucherie ?
C'est depuis peu. J'ai commencé en tant que salarié en janvier. Et suivi l'été en août 2021, là, cet été-là, ben, j'ai pris la relève de mon oncle qui m'a laissé en gérance. J'ai pu découvrir pendant mes moments de salarié comment ça fonctionne et je me suis lancé dans l'aventure. J'ai deux bouchers et un apprenti boucher et la femme de ménage. C'est moi le patron.
C'est quoi votre rythme de travail ?
Ah, c'est un rythme très, très compliqué. Hein. Je peux me lever à 5h, comme je peux me lever à 7h, comme je peux me lever à 6h, mais fermer toujours la boutique à 21h. Je me lève plutôt en fonction de ce que j'ai à faire comme course, mais après, voilà.
La Busrine, c'est l'un des rares quartiers à Marseille à avoir autant maintenu un tissu comme ça commercial, avec la boulangerie, l'autre alimentation générale, le petit café.
Oui, après ici, on est un quartier, on s'est battu pour que nos commerces se gardent. Ce qui est dommage, c'est que nos commerces à nous, il y a deux snacks, deux boulangeries et deux alimentations. Ça veut dire qu'on a du mal à se diversifier. Là, on a réussi à ouvrir une boucherie, peut-être que là, demain, ce sera autre chose, un pressing. Il y a plein de trucs à développer ici, que les gens ils sont dans la demande. Hein. Un coiffeur, par exemple, un coiffeur. Le tabac, ici, on avait un tabac, on n'a plus. Ouais.
Bonjour madame. C'est juste la radio, hein?
Bon, moi c'est quasi déjà, c'est pas grave. Après je traduirai.
Ça? Non, comme 9 euros.
Ah, 9 euros, bon, je n'ai pas 15 euros.
Mm-hmm.
10 kilos, 36 maintenant.
Ah bon?
Je n'ai pas 16 euros, ouais. Ça augmente un peu.
Ça va.
Tiens, Ezekiel, tu regardes où il y a le moins de gras, des bons morceaux pour. Avec 10 kilos.
On a pas de mafoura.
Ouais. Ça c'est le flancher.
Très bon.
La viande des Comoriens, ça. Les Comoriens aiment
beaucoup. Les Comoriens, ils aiment beaucoup chez Dari.
Des fois, comme je suis Comorien, je me.
Regarde bien.
Des fois, je ne suis pas Comorien parce qu'il y en a certains. Et... Ah, du moins, là, c'est ce qui m'en français.
Vous êtes d'origine comorienne ?
C'est ça, d'origine comorienne.
Voilà.
Des fois, ça aide. Là, ce que m'a demandé la dame, c'est par exemple, elle m'a demandé, là, j'ai que 20 euros. Est-ce que je peux te ramener 15 euros plus tard ?
Voilà.
Comme je la connais, il n'y a pas de problème.
Couper un morceau quand on n'a pas les couteaux. Moyenne, quand on n'a pas les couteaux à la maison. Ouais, merci. C'est gentil. Ouais, très gentil.
Vous venez souvent ici ?
Oui, tous les jours. Tout le temps, il achète la viande ici. Les poulets, les maniocos, les bananes, les patates, les piments, tout.
Mohamed dit qu'avant de travailler à la boucherie, il était spectateur de la vie sociale de son quartier. Il en est désormais acteur. Il fait partie de la grande majorité des jeunes Marseillais qui vivent et travaillent en dehors du trafic de drogue. Pour les autres, ceux qui sont dans le trafic, ceux qui veulent ou rêvent d'y entrer, ceux qui sont au chômage, il y a heureusement tout un réseau d'associations qui tentent de leur ouvrir des perspectives. C'est l'une des missions de l'association Dune, spécialisée dans la médiation sociale. Dune déploie ses équipes dans le nord de Marseille et notamment dans le quartier du Castellas, dans le 15e arrondissement où nous nous rendons désormais. Le Castellas, c'est un quartier plus petit et plus enclavé que la Busrine.
Bonjour, Inès Benoussa, coordinatrice pour l'association Dune, pour le projet de la médiation sociale urbaine sur les quartiers nord, donc 15e et 14e arrondissement de Marseille.
Là, il est 10h, vos équipes vont partir sur le terrain, comment ça va se passer ?
Donc on va un petit peu constituer les équipes, tout le monde ira sur son poste, on va faire le débrief de ceux qui ont commencé à 8h, parce qu'il y avait des petits projets ce matin, et après, on ira tous sur le terrain. S'il vous plaît, tout le monde. Tidjara. Alors, Zinedine, je parlais avec Soufa sur la Simiane et Biumbin.
D'accord.
Ok. Vous deux, vous continuez les tours. Vous annulez. Alors, il faut tout annuler les rendez-vous. D'accord. Parce qu'en fait, ils ont pris des rendez-vous pour les tours, pour les travaux.
Pour aujourd'hui et demain.
Il y a eu un incident. Il y a eu un monsieur qui a menacé les ouvriers qui faisaient les travaux. Donc, il les a menacés de mort, de sortir avec une calache. Donc, ça a été un peu sous tension. Et du coup, les ouvriers sont partis. Donc, du coup, ils doivent appeler tous les habitants de la tour.
Ceux d'aujourd'hui
annulés, ceux de demain aussi.
On attend la confirmation de sondage.
Ok. Vous allez voir le bailleur, vous êtes allé le voir, c'est bon ?
C'est fait.
Ok.
C'est fait.
Et est-ce que vous savez qui c'est ?
C'est celui qui avait présenté le mari de Nadia à l'association.
Ah, d'accord, ouais. Et pourquoi il est dehors ? Il n'est pas en prison ?
Mais il n'est jamais rentré.
Ah, d'accord.
Je crois qu'ils vont aller porter plainte la société.
Oui, menace de mort.
Benji, oui.
Eh oui, ils sont obligés. Bon, vous annulez, vous m'appelez, vous me faites un point.
Okay.
On y va. Moi et Kamel, vous restez là. Zinedine et Soufa, vous partez. Anaïs, tu viens avec nous. Vous appelez si un problème.
J'espère que ça enregistre pas, là.
Tu regardes.
Donc ce matin, vous travaillez en binôme, comme toujours. Il y a vous, Tidjara, et vous, Zinedine.
C'est ça. Bonjour. Voilà, on se présente, on est Zinedine et Tidji. On travaille, on fait de la médiation sociale. Donc en fait, on fait
c'est
de la...
C'est une radio, qu'est-ce qu'ils font, eux, dans le quartier?
Vous êtes médiateur?
Ouais, c'est ça.
Ah, voilà, dis-moi.
Les jours, ils passent là.
On peut parler des problèmes qui se passent dans le quartier, qu'est-ce que vous rencontrez comme souci. Voilà, quoi, donc...
Il n'y a pas de travail, madame. Il n'y a pas de travail, on va le chier tous les jours, voilà.
Ah, c'est la merde. Arrête de délirer, tu délires, c'est pour ça.
C'est un fou, ce jeune.
C'est la vérité, quoi.
Moi je travaille.
Je commence à midi.
Que ça manque de trucs pour les enfants. Il n'y a pas assez d'encadrement.
Mais pourtant, on vient tous les mercredis avec les activités, on essaie de faire venir les enfants, ils ne viennent pas.
Ils sont pas,
parents,
ils sont
pas
motivés.
Pas lâcher,
Parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, ils ont peur.
Il n'y a pas assez de budget pour les activités. Les jeunes, tu les ramènes à Marseille, c'est normal. Hein. Ils veulent sortir, les jeunes. Hein.
Ouais, ils veulent aller en Espagne,
là-bas.
Ouais, c'est vrai.
Hey gros, c'est comme ça.
Sinon, ça va, le quartier, il est bien, franchement. Il y a pire comme quartier à Marseille. Il n'y a pas eu de règlement de compte, il n'y a pas eu de... Ça va.
Non, t'es... Comparé aux autres quartiers, ouais, c'est vrai.
C'est un quartier calme. C'est qui la nouvelle maire? C'est plus Godin, c'est...
Retro.
Comment elle s'appelle? J'ai oublié.
Hein?
Michel Rubirola,
voilà,
mais c'est...
Elle
c'est,
fait
c'est,
rien.
C'est plus elle, c'est Benoît Payan maintenant.
Ah, ça change de... Comme il change de culotte. Ah ouais, c'est un délire. D'accord.
L'idée, c'est quand même d'orienter les jeunes vers l'emploi, de leur dire que c'est possible, il n'y a pas de fatalité.
Ah oui, mais pas que. Il y a aussi y a l'emploi, il y a la formation... Certains sortent des fois d'un parcours scolaire assez difficile, ils ont été en échec scolaire, des fois ils ont été mal orientés, des fois ils se sont mal orientés. Pour eux, la scolarité, la formation, c'est même plus envisageable. Ils ont trop de mauvais souvenirs. Donc nous, on est là aussi pour leur redonner un petit peu goût à ça. Et aussi, il y a quelque chose aussi d'important, c'est que nous, quand on est médiateur, on n'est pas venu ici par hasard. On a nous aussi ce parcours scolaire des fois compliqué, où on est déçu de l'école, on est déçu de peut-être du travail. Enfin, on a ce vécu-là en général. Donc, je ne vais pas dire qu'on leur ressemble, mais on peut comprendre ce qu'ils vivent. Donc forcément, c'est pas plus facile pour nous de les orienter, c'est faux. Mais on a peut-être plus d'outils personnels à pouvoir les orienter. Et ça, c'est important. Et c'est ce qui fait la force, en tout cas, de chez nous, dans les médiateurs de Dune. C'est notre parcours, il est entre guillemets semblable un petit peu au leur.
D'accord.
Je t'envoie les coordonnées par texto.
C'est bon.
Et tu envoies, du coup.
Dans mon CV, ma démotivation.
Voilà.
C'est ça.
Et nous, on va dire que c'est.
Mais j'ai pas de la démotivation, je
sais. On va t'aider à la faire si tu veux.
C'est bon.
Peut-être tu seras le futur médiateur.
Peut-être, ça. Pourquoi pas?
Ben oui, pourquoi pas. En plus, tu es. Non. En plus, ils te proposent des formations chez nous. Et après, tu peux évoluer.
C'est quoi la formation?
On va essayer de le faire postuler pour être médiateur.
Médiateur? Deuxième
Les deux jeunes qui plaisantaient tout à l'heure acceptent de raconter leur parcours. C'est dans une arrière-salle, forcément à l'abri des regards, qu'ils se livrent à Géraldine Allot. Deux vies déjà marquées par les stigmates du trafic. Le plus âgé a 25 ans, il se fait appeler Karim.
Je travaille en intérim, madame. Ça fait maintenant 3 mois, 4 mois. Et ça se passe plutôt bien, ça va, mais bon, voilà. C'est dur, hein. C'est dur.
Qu'est-ce que vous faites exactement?
Je prépare des commandes. La journée, c'est comme ça. Tous les jours, c'est des commandes. Ça n'arrête pas, j'ai pas de vie, je suis dans un frigo. Et des fois, j'en ai marre, c'est la vérité.
Et avant, vous faisiez quoi?
Avant, j'étais un trafiquant de drogue.
Et vous avez arrêté, pourquoi?
Pour ma femme. Ça me manque des fois, je vous mens pas. Et j'aime ça, je fais pour ça, des fois. Je me dis ça.
Avec le deal, vous gagnez combien à l'époque?
Je vais pas dire le chiffre, mais bon, j'ai gagné ma vie. Je vivais pas comme un mouton, je vivais comme un roi.
Vous avez fait ça pendant combien de temps?
Je l'ai fait toute ma vie, depuis ma jeunesse. J'ai arrêté les conneries là, ça fait un an. Je suis fait de la prison. J'en ai fait toute ma vie de la prison. Mon trap à 18 ans, madame, j'ai plus vu le jour. Les yeux se sont fermés ce jour-là.
Alors le deal, on a bien compris que ça vous rapportait plus d'argent que votre métier actuel. Mais c'est aussi un certain nombre de risques. On l'a vu ces derniers mois à Marseille. Beaucoup de règlements de compte. Ça a joué aussi dans votre décision d'arrêter?
Eh aussi, c'est dangereux. Frérot, les gens ils se tuent pour 50 euros. Ça y est, ça va plus maintenant. C'est devenu inquiétant, Marseille. Mais bon, c'est comme ça, c'est Marseille, ça a toujours été comme ça. Mais bon, la police, ils se régalent aussi à ramasser nos corps par terre. Voilà, moi j'ai perdu 2 cousins, ils sont morts à la Kalachnikov.
Karim a perdu ses 2 cousins en mars 2016 et en mars 2019. Le premier, considéré par la police comme l'un des caïds du Castellas, a été abattu au volant de sa voiture. Le second, l'un des gérants du trafic de drogue à la Busrine, a connu le même sort quelques mois après sa sortie de prison.
C'est Marseille, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça.
Et ça donnait quoi l'enquête sur la mort de vos cousins? Il y a des gens qui ont été arrêtés?
Ouais, il y en a qui se sont fait arrêter, Il y en a, ils courent toujours, hein, madame. Ils sont dehors. Je sais pas, moi, peut-être qu'ils peuvent s'en prendre à moi. Des fois, il y a toujours le passé qui te rattrape, comme on dit. On n'est jamais sûr de rien, comme on dit. Voilà, c'est pour ça que des fois, je regarde derrière moi. Je ne me demande pas, je fais aguer, je suis toujours parano, toujours.
Encore aujourd'hui?
Eh oui, les gens de Marseille font que tu vis dans un quartier, tu es obligé d'être comme ça. Tu es obligé de faire le voyou, parce que si tu fais le fatigué, ils vont te prendre pour un fatigué.
Ça veut dire que vous allez quelque part, vous regardez derrière vous, dans un bar, vous vous mettez face à l'ouverture. Comment vous faites? C'est quoi être aux aguets?
Et ouais, c'est un peu ça. Je suis à l'affût du moindre mouvement. Il y en a qui t'as grandi avec eux, tu peux pas leur faire confiance. C'est comme ça. Il y en a toujours un qui va te la mettre. Ou il va te mettre un couteau dans le dos. C'est comme ça. Je vous ai dit, à Marseille, ça va trop, trop vite. Les jeunes de maintenant, ça y est, tout le monde est armé, tout le monde est... C'est comme ça.
À la base, pourquoi vous étiez rentré dans le réseau, dans le deal?
Pour l'argent, madame. C'est pour pas du gain. C'est comme ça, l'argent. Toujours l'argent. L'argent, il n'y a que ça dans la tête. Tu te lèves, l'argent.
Mais l'argent pour faire quoi?
Sortir, dépenser, s'amuser, profiter de la vie. Tu peux pas, sinon. Je peux pas. En allant travailler tous les jours, je peux pas profiter de la vie. C'est impossible. C'est par amour que j'ai arrêté. Sinon, je vous mens pas, je serai où je suis. Des fois, ça me manque, hein, je vais pas vous mentir. Ça me manque d'avoir un calme sur moi, j'aime bien l'adrénaline, moi, je vous mens pas. Maintenant, je me suis calmé, je suis devenu un oiseau.
C'est quoi l'avenir pour vous?
L'avenir? Ce sera derrière le travail et avec ma femme et mes enfants. Après, l'avenir. Ouvrir un magasin, je reste tranquille. Hein. Je fais quoi? Hein? Le caïd? On va finir au cimetière ou en prison. Vous comprenez?
Yacine, vous avez 23 ans.
Oui, c'est ça.
Yacine, c'est un prénom d'emprunt. On vient de vous enlever le bracelet électronique, c'est ça?
Ça, voilà. Ça fait 2 mois qu'on me l'a enlevé. Je suis content, je suis libre. Je ne dois plus rien à personne, et tant mieux.
Donc vous aviez été condamné à une peine de
5 ans
pour
trafic de stupes, association de malfaiteurs. Et je suis rentré en prison, j'avais 19 ans. Je suis sorti à 22 ans.
L'an dernier ?
Voilà, en octobre dernier. Avec le bracelet électronique, j'ai passé 3 ans et demi en prison. J'ai fait des démarches dedans, voilà, pour travailler. J'ai fait un CAP boulangerie. J'ai eu mon code et mon permis. Et j'ai bâti un projet avec le Pôle emploi qui m'a fait sortir de prison un an et demi à l'avance, qui m'a financé mon projet. Voilà, je suis passé devant le JAP, le juge d'application des peines à Arles. Il m'a validé mon projet. Voilà, depuis, ben, ça se passe bien.
C'est quoi votre projet alors? C'est une plateforme de VTC.
C'est une plateforme de VTC. Dans les provinces à la Côte d'Azur, c'est pas que dans les Bouches-du-Rhône, c'est dans le Vaucluse, dans les Hautes, tout ce qui est les petits trucs à côté. Donc j'ai trouvé 3 employés qui travaillaient pour moi, ils sont très gentils, c'est des pères de famille, ils ont leur situation, etc. Je fais mon train-train quotidien, je paye mes factures, j'essaye de m'instruire un peu, de connaître un peu comment payer, comment faire ci, les impôts, etc. Moi, c'est tout nouveau pour moi, je ne connais pas du tout. Et voilà, petit à petit, ça va, j'évolue, on va dire. Et là, ça va, je commence à bien m'y connaître dans le métier, donc je suis content, je suis fier de moi. J'étais encore un peu dans le trafic quand j'étais en prison. Ça m'a pas, voilà, du jour au lendemain, j'ai décroché. Je me suis pas dit comme mon collègue, elle me manque cette vie, ou voilà, moi, ça me paye rien qui me manque. Je suis bien comme je suis, tant mieux. Oui.
Donc pour vous, la prison, ça a vraiment été l'endroit d'une prise de conscience, voilà. En fait. Et pour vous, ça n'a pas été un tremplin vers la grande, grande délinquance. Vous avez vraiment décidé de vous ranger.
Moi, j'étais un grand, grand délinquant. Vous tapez maintenant mon nom sur Google, je me suis fait attraper avec 100 kilos de shit, moi. Je veux pas vous dire j'avais un réseau, mais presque. J'étais grand gérant, j'étais très, très, très bien. Je gagnais très bien ma vie, je gagnais 30 000 euros par mois. Ça veut dire 1 000 euros par jour. Un SMIC par jour. Donc. Je faisais mes vacances, j'allais à Marbella, là-bas. Je faisais ma petite vie de jeune inconscient. Jusqu'à que la vie, elle te rattrape. J'étais en prison. J'ai pris une peine astronomique pour mon âge. J'ai plus envie de tout ça, surtout pour ma mère. Personne n'est allé la voir quand j'étais en prison.
Qu'est-ce qui vous a fait arrêter le deal?
C'est ma famille. Ma mère, elle a un cancer. Et elle était malade, je la voyais, elle était dégradée, plus moi. Je me posais des questions à moi-même, je me disais c'est pas bien ce que tu fais, etc. Je me remettais en question. Donc je voyais que c'était pas le chemin, ce chemin il allait me mener à un danger pour moi, où soit j'allais mourir, soit j'allais prendre 15 ans de prison. Parce que voilà. Après, on n'a plus conscience du danger quand on est tout le temps en permanence comme ça, on sait même plus ce qu'on fait, on sait même plus le pour et le contre, donc voilà. J'ai dit, je vais arrêter maintenant, mais je ne suis pas encore arrêté, je suis jeune. Après, quand les années vont passer, mon cœur il va trop noircir. Ça y est, ça sera irréversible. Je ne pourrai plus revenir en arrière. Donc j'ai arrêté au bon moment, on va dire. Quand j'avais encore la foi d'y croire.
On a rendez-vous avec Noureddine Bougrine.
Je vais vous le trouver.
Merci. Noureddine Bougrine, donc vous êtes le directeur de l'association Dune qu'on a suivi tout à l'heure au Castellas. À l'instant, on a entendu un jeune, un ancien trafiquant qui a fait de la prison, qui a lancé son entreprise et qui nous disait « J'ai arrêté avant que mon cœur se noircisse trop ». Et ce jeune homme, il a été accompagné par la mission locale, par Pôle emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on les accompagne, ces jeunes, ils peuvent échapper à tout ça?
Il faut être là au bon moment. Nous, notre job, c'est d'être présent quand lui, il a bien mûri sa réflexion et qu'il sait à un moment, voilà, bah c'est bon, je suis prêt. J'ai fait des conneries, je m'en suis sorti indemne. Mais pendant toutes ces années où finalement, je n'ai pas fait le pas, j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré des gens qui m'ont ouvert la porte, que je n'ai pas franchie, mais j'ai rencontré des gens. Et moi, maintenant que je suis prêt, que je me suis construit, que j'ai eu des expériences plus ou moins heureuses ou malheureuses, je sais où les trouver. Voilà. Et c'est peut-être ça aussi qu'on a du mal à valoriser, parce qu'on entend souvent, ouais, vous les travailleurs sociaux, ça sert à rien et tout, nanana. Le bénéfice d'un intervenant social, il est mesuré non pas par le temps qui passe avec un jeune, mais il bénéficie du travail de tous ses pairs auparavant. Je veux dire, à un moment, quand le jeune, nous, on le rencontre et qu'il nous dit à un moment, eh, c'est bon, j'ai envie de m'en sortir, j'arrête de faire le con, etc. Mais on est obligé, légitimement, de penser qu'on bénéficie des 50 travailleurs sociaux qui l'ont rencontré, qui, à un moment, ont posé la graine, petit à petit, et ont élargi le champ du possible. Il y a des jeunes qui, au fur et à mesure de nous voir régulièrement, nous interpellent. C'était ceux-là qui disaient à nos médiateurs « Qu'est-ce que tu fais ici ? Qui tu es ? Tanani, nanana, tu vois ?» Des questions qui relèvent de leur job de chouf. Mais qui, au fur et à mesure, quand on vient tous les jours, « Ah, bonjour, ça va, tu vas bien et tout, voilà. » Finalement, qu'est-ce que tu fais, toi, ici ? Et c'est là qu'ils se livrent. Il y en a un qui va vous attraper et qui va vous dire « Ouais, tu peux nous aider pour faire le CV ?» Pour nous, c'est révélateur. Quand il te dit « Tu peux nous aider à faire le CV ?» Il faut le traduire. Hein. C'est « Est-ce que tu peux m'aider ?» Mais c'est bien. Après, on s'aperçoit que... Il y a d'autres choses. Mais la démarche, elle est là. La démarche est là et il veut s'en sortir. Il n'y a rien d'irrémédiable.
Quartier Nord de Marseille, le deal et l'ordinaire, c'était un reportage de Géraldine Allot. Laurent Macchietti à la prise de son. Le reportage a été réalisé par Charles de Cilia, aidé de Martine Messonnier. Mixage d'Ophar Guéride.